Nous allons partager un sujet qui est très important. Ce matin, nous avons vu, par exemple, un commandement qui permet à Dieu d'ouvrir des portes. Des chrétiens m'ont dit on n'avait pas fait attention, on n'avait pas réalisé. Ce matin, j'ai pris un verset de l'Écriture où Dieu dit, c'est dans le cadre du baptême du Saint-Esprit en plus, où il est dit « Rendez continuellement grâce à Dieu ». Et l'apôtre Paul ajoute aux Thessaloniciens « Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ ». Et nous avons vu, par le biais de l'Ancien Testament, que les Hébreux, à cause de leurs murmures et de leurs plaintes, se sont fermés les portes. Je reviens sur cette prédication pour vous montrer qu'il y a certaines choses qui sont très importantes. On voit quand ils murmuraient que la colère de Dieu s'est enflammée. Alors on a l'impression que la réaction de Dieu est disproportionnée, mais ça veut dire que quand on se plaint, Dieu ne peut pas nous bénir. Vous allez me dire, mais oui, et bien c'est comme ça. C'est comme ça. Par contre, quand on rend grâce, et bien ça plaît au Seigneur. Parce que ça prouve qu'on lui fait entièrement confiance. Nous allons voir un autre aspect très important, puisque c'est le seul nom que Jésus va donner à son Église. Dans Ésaïe, au chapitre 56, une prophétie est donnée. C'est une prophétie. Dieu donne un nom à sa maison. Ésaïe 56, verset 7. Ce sont des versets qu'on appelle des versets clés, qui nous permettent de comprendre vraiment la volonté. Ce matin, on a vu un aspect dans notre comportement de tous les jours, apprendre à rendre grâce. Là, c'est d'une manière beaucoup plus générale, Ésaïe 56, verset 7, « Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. » Regardez bien la prophétie. « Je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leur sacrifice seront agréés sur mon autel, car... ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Et tout le peuple dit Amen. Amen. Voilà comment Dieu a décidé d'appeler sa maison. Ma maison sera une maison de prière. Et j'ai observé, d'ailleurs la preuve, ce n'est pas une critique, ce n'est pas du tout une façon de ce ne serait pas intelligent de ma part, mais c'est quand même une constatation. Il y a 400 membres dans l'Église, on est 400 membres. Qui viennent à l'église, sans compter les nouveaux, sans compter les ados, etc., les enfants, etc., il y a 400 personnes qui sont inscrites. Au jeûne et prière à midi, on était 16. Ça fait 4%. C'est pour vous dire combien on a du mal à rassembler les gens à prier. Je ne fais pas une affaire, mais c'est révélateur. Je me souviens, il y a 25 ans de ça, à l'église d'Albi avait invité une grande chorale, un samedi après-midi, l'église était remplie, on ne pouvait plus mettre personne. Et moi, je m'étais assis au fond, parce que le pasteur qui me formait était assis au fond, et puis il était tout triste. Alors je le regarde, je dis, monsieur Bertalon, vous n'êtes pas content que l'église soit pleine? Alors vous savez, il était très discret, cet homme. Il me dit, Gérard, tu comprendras mardi. Et j'ai compris avant mardi. C'est que le mardi, c'était la réunion de prière. Et à la réunion de prière, on était 12. Et au concert, on était 250. Et tout ça pour vous dire qu'on a énormément de difficultés à mettre les gens en prière. Alors que c'est la volonté de Dieu et que c'est toujours la volonté de Dieu. Quelqu'un pourrait dire, oh mais ça a été écrit il y a 2800 ans, c'est le prophète Ésaïe. Eh bien regardez avec moi dans Matthieu 21 si Dieu a changé d'avis. Quand Jésus est venu, il a rappelé cette prophétie pour nous dire que Dieu pense toujours la même chose et il pense toujours la même chose aujourd'hui puisque c'était dans le cadre du Nouveau Testament. Dans Matthieu 21, le temple avait énormément changé. Matthieu 21, Jésus a été obligé de faire du ménage, comme on dit. Matthieu 21, verset 12, Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Gloire à Dieu. Donc, 800, comment ça s'appelle? Plusieurs siècles après, Jésus, lorsqu'il est venu, réitère que Dieu veut la même chose, que sa maison soit une maison de prière. Pourquoi Dieu veut-il que sa maison soit une maison de prière? Eh bien, parce que Dieu a l'intention de bénir. Je les réjouirai dans ma maison de prière. Dans sa maison, qu'est-ce que Dieu veut faire? Eh bien, Dieu, il veut guérir. Dieu, il veut bénir. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On supprime les réunions de prière. Je vous assure, il y a des églises, il n'y a plus de réunions de prière. Et nous devrions avoir honte. Avoir honte, parce que le seul nom que Dieu donne à sa maison est celui-ci, ma maison sera une maison de prière. Et s'il y a bien quelque chose qu'on ne devrait pas négocier dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est la réunion de prière. On ne peut pas penser autrement. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi cet après-midi, je peux vous dire que ce n'est pas avec moi que vous n'êtes pas d'accord. Que vous ne soyez pas d'accord avec moi, ça n'a aucune importance. Mais en fin de compte, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vous dis, c'est que vous n'êtes absolument pas d'accord avec la parole de Dieu. Ma maison sera une maison de prière, une maison où Dieu veut bénir. Quand la prophétie d'Ésaïe a été donnée, la maison du Seigneur, c'était quoi à l'époque? C'était le temple de Salomon, d'accord avec moi? Et quand le temple a été inauguré, je ne sais pas si vous avez vu l'inauguration du temple de Salomon, mais c'est quelque chose de prodigieux. Salomon, avant, avait prié. Il avait dit, Seigneur, tu vois, à la dédicace, tu vois, Seigneur, on te consacre ce temple. C'est sûr, il ne pouvait pas faire autrement, etc. Et puis Dieu a dit ce qu'il allait faire dans ce temple. Dieu a dit, voilà, là, je bénirai. Quand un homme aura péché et qu'il demandera pardon, quand la nation aura péché, quand le peuple aura perdu à cause de ceci, quand un étranger viendra et suppliera, etc., etc., là seront toujours mes yeux et mon cœur. C'était pas merveilleux ça? Dieu donne son approbation à la prière de Salomon, et bien voilà ce qui se passera. Quand vous prierez, je vous exaucerai. Quand mon peuple s'humiliera, on connaît tous ce texte. Si mon peuple s'humilie, si mon peuple prie, s'il cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je le guérirai. On voit que le désir de Dieu, c'est de bénir. Dieu a-t-il changé d'avis? Non. Dieu veut toujours bénir. Mais dans ce temple, il s'en est passé des choses. On voit qu'au temps de Jésus, ils en avaient fait une caverne de voleurs. Oh, vous savez, ils ne devaient pas appeler le temple une caverne de voleurs. Qu'est-ce qu'ils y faisaient dans le temple? Qu'est-ce qu'ils y faisaient? Du commerce. Bien sûr que c'était pour Dieu. Ils vendaient des bœufs, des pigeons. Ils changeaient la monnaie parce qu'il y avait des juifs de plusieurs contrées qui venaient. Ah, c'était pour les sacrifices. Vous savez, au nom de Dieu, on peut en faire des choses. Mais ce n'était pas du tout pour ça que le temple avait été créé. Une église, c'est pourquoi une église? C'est pourquoi une église? Une église, est-ce que c'est pour faire de l'animation? Est-ce que c'est pour faire du social? Est-ce que c'est pour faire une friperie? Est-ce que c'est pour... Je ne sais pas moi, il faut m'aider. Une église, ça doit être une maison de prière. Alors je répète, du temps d'Ésaïe, c'était le temple de Salomon. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est le temple de Salomon? La maison du Seigneur, aujourd'hui, c'est quoi? C'est nous. C'est écrit ça quelque part? Est-ce que c'est écrit que la maison du Seigneur, c'est nous? C'est écrit où? Eh oui, vous ne m'aidez pas beaucoup. Hébreux chapitre 3. C'est important de comprendre. Vous savez, il y a des textes comme ça dans la Bible. Il faut bien les expliquer pour que nous devenions ces intercesseurs que Dieu veut que nous soyons. Hébreux chapitre 3, verset 5. C'est important, vous savez, je pense à tous ceux qui ont pris le baptême, tous ceux qui ont dit un jour, voilà, Jésus sera mon Seigneur. Moi, je m'adresse à des gens qui ont pris le baptême. La volonté de Dieu, ça ne les préoccupe pas. Je vais poser cette question ce matin. Est-ce que vraiment ça vous préoccupe de comprendre la volonté de Dieu, de discerner la volonté de Dieu? Est-ce que c'est important pour vous? Les gens sont... Non, il y a des gens, vous savez, pour eux, Dieu, c'est bénis-moi, bénis-moi. Hier, je parlais aux hommes de l'église et je leur disais, il y a des gens, qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi? Qu'est-ce que Dieu peut me donner? Qu'est-ce que Dieu peut m'accorder? Saul de Tarse, malgré le fait que c'était un homme qui était contre l'église, quand il a rencontré Jésus, il n'a pas dit, mais qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi? Il a dit à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et là, on voit l'état de cœur des gens. Quand ils vont dans une église, non pas « Seigneur, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour moi? Est-ce qu'il pourrait me bénir davantage? Est-ce qu'en priant, je pourrais avoir un meilleur salaire? Est-ce que je pourrais avoir une bonne épouse? Oh Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire ?» Vous voyez la maison du Seigneur. Bien sûr que Dieu peut donner un meilleur salaire. Bien sûr que Dieu peut, si vous envisagez de vous marier, vous donner une épouse excellente. C'est quand même la volonté de Dieu. Et vice-versa. Et un excellent mari, naturellement. Mais la maison de Dieu, c'est sérieux. Et la maison du Seigneur, regardez, Hébreux chapitre 3, verset 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous glorifions. Amen. Amen. Paul dit aux Éphésiens que nous sommes les gens de la maison de Dieu. Paul dit à Timothée, je t'expliquerai comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. La maison de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas un local. Bien sûr que le local où les chrétiens se rassemblent devient la maison de Dieu. Mais la maison de Dieu, c'est nous. Nous, les chrétiens, qui sont des pierres vivantes. Et ça, c'est très bien expliqué. La maison, dans la Bible, c'est plus qu'un bâtiment. Quand Dieu dit à Noé, toi et ta maison, entrez dans l'arche. Oui, ça veut dire la famille aussi. Et on peut l'expliquer de plusieurs manières. Donc, la maison du Seigneur, c'est nous, les chrétiens, qui avons accepté Jésus-Christ. Les chrétiens, ce n'est pas tous les chrétiens, je suis désolé, mais tous les chrétiens qui sont passés par la repentance, par la conversion, qui ont accepté Jésus comme sauveur et comme Seigneur. Un chrétien, ce n'est pas un catholique, un protestant, un évangélique, un pentecôtiste. Tout ça, ça ne veut rien dire. Un chrétien, c'est vraiment quelqu'un qui a accepté Jésus comme sauveur et comme Seigneur. Alléluia. Voilà, vous devez savoir si vous êtes un véritable chrétien. Vous savez, ça me brise le cœur, mais je le fais parce que c'est de ma responsabilité. Combien de fois je dois dire à des gens, mais vous n'êtes pas converti. Mais si, je suis baptisé. Je dis, oui, vous êtes baptisé. Mais vous êtes toujours dans votre superstition, vous êtes toujours dans votre avarice, vous êtes toujours dans ceci, dans votre cela. Les gens sont véritablement des chrétiens lorsqu'ils sont passés par la repentance et par la conversion. Voilà à quoi on reconnaît un véritable disciple. Bon, là, premier point, sa maison, c'est nous. Deuxièmement, ma maison sera une maison de prière. Alors, de quelle prière s'agit-il? Parce que là aussi, la prière, on en a dit des choses sur la prière. C'est quoi la prière? C'est quoi la prière? Pour beaucoup de gens, la prière, c'est parler. C'est parler, parler, parler à Dieu. Mais c'est quoi ça? C'est quoi la prière? Tout à l'heure, est-ce qu'on a prié? Un chrétien qui loue, il est en train de prier. D'accord avec moi? Un chrétien qui adore, il est en train de prier. Un chrétien qui est recueilli, qui est dans la contemplation, il pense à Jésus qui est mort sur la croix. Quand on prend le pain et le vin, j'espère que vous disciplinez votre pensée et que vous réalisez l'œuvre du Christ, ce morceau de pain qui vous rappelle le corps brisé, ce petit peu de vin qui vous rappelle le sang versé. J'espère que vous disciplinez votre esprit à comprendre l'œuvre du calvaire. Là, on peut être dans un esprit de contemplation. Est-ce que la Bible parle de la contemplation? Est-ce que la Bible parle de l'admiration du Seigneur Jésus-Christ? Tout ça, ce sont des prières. Un pécheur qui vient et qui demande pardon à Jésus-Christ, est-ce que c'est une prière? Alors, un pécheur qui vient pour la première fois, qui demande pardon pour ses péchés. Quand Jésus dit « ma maison est une maison de prière », c'est pour tout ça. Un pécheur peut venir prier, un chrétien peut venir adorer, un rétrograde qui revient se jeter dans les bras du Seigneur, etc. Un croyant qui supplie Dieu pour les âmes perdues. Tout ça, ça fait partie des prières. Et dans la maison de Dieu, Jésus attend toutes ces sortes de prières. On n'a pas... Une fois, je me rappelle, il y avait un pécheur qui était venu, un gars, c'est vrai que ça faisait pitié comment il était. Il a prié, il y a quelqu'un qui m'a dit, Monsieur Go, vous avez entendu qui c'est qui prie? Et bien, j'ai dit, est-ce qu'il n'a pas le droit de prier? Est-ce qu'il avait le droit de prier? Eh bien oui. Les seules choses qu'il faut corriger dans une église, c'est quand un chrétien vit vraiment dans le péché, qui fait tout un cinéma, là je crois qu'il faut lui dire, écoute, je pense que ce n'est pas intelligent. Vous voyez, il faut de la discipline dans une église. Mais tout le monde peut prier dans une église. Un rétrograde qui revient a le droit de prier. Dieu veut entendre des prières. C'est quelque chose que Dieu veut. Et pourtant, combien de chrétiens ne prient pas, ne louent pas, n'adorent pas, ne supplient pas, alors que toutes ces choses elles reviennent continuellement dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Pourquoi ? Parce que le diable a toujours travaillé pour empêcher les chrétiens de prier. Vous savez, je suis très très bien placé, vous savez, vous demandez certaines choses, vous trouvez du monde. Pour servir Dieu, on trouve du monde. Pour faire ci, pour faire ça, pour faire autre chose, une activité. Mais mettre les gens en prière, c'est une affaire très difficile. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y en a un qui sait très bien les bénédictions qui vont découler de la prière. Mais on devrait, nous, être au courant. On vient de le lire. Je les réjouirai dans ma maison de prière. Et de tout temps, dans le temple de Salomon, où Dieu avait dit, là, il y aura toujours mes yeux et mon cœur. C'était pas une belle affaire, ça ? Franchement, ça vous touche pas, ça ? Dieu avait dit à Salomon, écoute, il y aura toujours mes yeux et mon cœur. Vous savez comment il a fini le temple de Salomon ? Comment il a fini le temple de Salomon en 70 ? Il a été détruit, rasé. Jésus l'avait prophétisé, il ne restera pas pierre sur pierre. Là où Dieu avait dit, c'est ma maison, il y aura toujours mes yeux et mon cœur. Il s'est passé tellement de choses dans ce temple que Dieu a été obligé de le détruire. Quand vous lisez l'Ancien Testament et que vous regardez certaines choses qui se sont trouvées dans le temple, vous vous dites, c'est pas possible. Parce que Satan a toujours travaillé pour empêcher la réalisation de cette prophétie, a toujours travaillé pour qu'à la place, que la maison de Dieu soit une maison de prière, soit une maison où on adorait les idoles. Vous vous rendez compte ce qu'il a réussi à faire ? On peut lire un ou deux textes, des choses à vous arracher les cheveux. Bien sûr, quand on n'a pas compris tout sur la prière, on ne voit pas peut-être le danger. Mais on va lire un ou deux textes comme ça. Regardez dans le deuxième livre des rois. Vous savez, c'est sérieux tout ça. On se demande pourquoi certaines choses, pourquoi Dieu n'agit pas, combien le Saint-Esprit n'agit pas comme on voudrait. Eh bien, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que mon cœur est un temple de prière? Ou est-ce que c'est une caverne de misère, de plainte, comme on l'a vu ce matin? On a vu ce matin combien Dieu n'apprécie pas quand on se plaint. Parce que c'est la preuve qu'on ne lui fait pas confiance. On l'a vu ce matin, je ne vais pas revenir là-dessus. Dans 2 Rois, au chapitre 23, regardez, c'est des choses qu'il faut comprendre. Moi, ce sont des choses qui m'ont profondément interpellé et montré pourquoi le Saint-Esprit n'agit pas parfois. Parce que parfois, dans les églises, on voit des chrétiens qui ont un comportement lamentable. Il faut dire la vérité, on ne va pas tourner autour du pot. 2 Rois 23, verset 4, regardez bien. Le roi ordonna à Ilkija, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre et à ceux qui gardaient le seuil, de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits, regardez bien, dans le temple, hein, les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté et pour toute l'armée des cieux. Est-ce que vous avez vu dans le temple du Seigneur des idoles pour le diable? Et il les brûla hors de Jérusalem dans les camps du Cédron, et il fit porter la poussière à Bethel. Il chassa les prêtres des idoles, établis par les rois de Juda, pour brûler des parfums sur les hauts lieux, dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem. Ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, aux zodiaques et à toute l'armée des cieux. Vous avez vu ? Les croyants qui pratiquaient l'horoscope. C'est ça qui se passait. Il y a des chrétiens, je vous dis, oh, moi, l'horoscope, je le lis, ça me marre. Mais ne riez pas. Parce que dans le temple de l'Éternel, ils le pratiquaient, ça. C'est écrit, c'est sérieux. Et dans la maison du Seigneur, à la place de trouver des prières et de l'adoration, on trouvait l'adoration aux idoles. C'est pas fini. Verset 6. Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté. Pareil, c'est des divinités. Qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent de Cédron. Il la brûla au torrent de Cédron et la réduisit en poussière. Et il la jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. Il abattit les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel et où les femmes tissaient des tentes pour Astarté. Je ne sais pas s'il faut dire amen, mais franchement, vous avez vu ce qui se passait dans la maison de Dieu ? Vous avez vu ? Parce que quand il n'y a pas de prière, il y a autre chose à la place. Mais c'est une évidence totale. Quand dans une vie, il n'y a pas une vie de prière, il y a les choses du monde qui viennent à la place. Et c'est pour ça que des chrétiens ne prient pas, mais ils sont en communion avec les choses du monde. Ça, l'amour, gloire et beauté, ils connaissent. Ils connaissent bien, ils se passeront. Il y a une sœur qui me disait dernièrement, quand je m'en allais 3 jours en vacances, je me faisais enregistrer amour, gloire et beauté. Mais si un dimanche je manquais l'église, ça m'était égal. Mais maintenant c'est l'inverse. Je ne regarde plus ces feuilletons, mais je me fais enregistrer les cultes. Et quand je ne suis pas là, je veux entendre la parole de Dieu. Vous voyez, des gens qui réagissent, qui disent, oui, ma maison, mon cœur. Jésus a dit, mais ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Qu'est-ce qu'il y a dans notre temple ? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de faire un peu de ménage ? Vous avez vu ce qui se passait dans le temple de Dieu ? Vous avez vu ? On va lire un texte pire encore, pire. Dans Ézéchiel au chapitre 8, quand je vous dis que c'est pire, laissez-moi vous dire que c'est vraiment pire. Ézéchiel, au chapitre 8. On se demande pourquoi dans Ézéchiel, la gloire est sortie du temple. Croyez-moi, c'est facile à comprendre. Ézéchiel, chapitre 8. Ézéchiel, chapitre 8, verset 5. Regardez ce qui se passe dans la... Alors, je ne sais pas si on va tout lire, mais franchement, regardez avec moi. Regardez. Ézéchiel, chapitre 8, verset 5. Il me dit, « Fils de l'homme, lève les yeux du côté de Septentrion. » Je levai les yeux du côté du Septentrion, et voici, regardez bien, cette idole de la jalousie était au Septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Non mais, franchement, qu'est-ce qu'ils avaient créé ? Une idole de la jalousie dans la maison du Seigneur. On se dit, mais on marche sur la tête. Mais dites-moi, est-ce que dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, on peut rencontrer de la jalousie ? Ben oui. Ce sont des choses qui devraient nous interpeller. Ça devrait nous interpeller. Il ne devrait pas y avoir de la jalousie. Béni soit Dieu pour tous les frères et pour toutes les sœurs. Il y a des gens qui ont reçu plus que d'autres, etc. Mais on est tous complémentaires et on devrait se réjouir de ce que quelqu'un a reçu. Oui ou non ? Oui. Mais ce n'est pas fini. Regardez, il me dit... Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font ? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël. Regardez bien la suite, je l'ai souligné. Pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Ça fait pas mal au cœur quand même. Là où Dieu avait dit, il y aura toujours mon cœur, j'aurai toujours mes yeux. Ils ont tout fait pour que Dieu s'éloigne. Et si vous étudiez le livre d'Ézéchiel, j'avoue que c'est un livre un petit peu compliqué, mais en fin de compte, vous voyez la gloire de Dieu qui sort, qui va de l'autel au seuil, du seuil à l'entrée, et puis qui va après sur la montagne des Oliviers, parce que le peuple de Dieu n'a pas voulu que la maison de Dieu soit une maison de prière. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, qu'on ne devrait pas rigoler avec la réunion de prière. Ah, moi, je ne peux pas. Mes frères et sœurs, ce n'est pas une question de pouvoir, de vouloir. C'est la volonté de Dieu que l'Église soit un endroit où on aime se retrouver et prier. Des fois, on me dit, mais monsieur Gros, vous priez, vous aimez prier. Mais je ne sais rien, je prie. Est-ce que Jésus a dit, tu pries si tu as envie ? Est-ce que Jésus a dit, tu pries quand tu es de bon poil ? Est-ce que Jésus a dit ça ? Jésus a dit, priez sans cesse. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi ? Priez. Voilà. Il n'est pas dit, tu adoreras le Seigneur si tu es content. Hein? Si tu as passé une bonne semaine, adore Dieu. Il a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Voilà. Ce n'est pas une question de sentiment, d'émotion, une bonne semaine, une mauvaise semaine, j'ai fait des progrès, je n'ai pas fait des progrès. Et voilà le problème de l'Église aujourd'hui. C'est que les gens, ils disent, ah non, je ne prie pas, je n'ai pas envie de prier, je ne suis pas content. Vous voyez, on fait la tête au Seigneur presque. parce qu'on a été contrarié au travail. C'est grave, hein. Ça prouve que les gens sont sentimentaux plus qu'ils ne sont spirituels. Je ne sais pas si on va tout lire. On va lire la fin. On va lire la fin. Vous le lirez si vous voulez. Ça vaut la peine, vraiment. Verset 14. « Il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient à mousse. » Vous voyez, toujours des divinités étrangères. Il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations, plus grandes que celles-ci. Il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel, et le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Vous voyez, ils ne se prosternaient pas devant Dieu, ils se prosternaient devant le soleil. Vous voyez, devant une autre source de lumière, devant une autre source de chaleur. Vous voyez, ils cherchaient une autre lumière. Mais combien aujourd'hui on cherche une autre lumière? Dites-moi, quand les églises cherchent pour gagner des âmes à faire des concerts à la place de prêcher la prédication de la croix, vous ne croyez pas qu'on s'est tourné vers des soleils? Vous ne croyez pas? Regardez au verset 11, je ne l'ai pas lu, mais 70 hommes, des anciens, en plus des anciens, de la maison d'Israël, du milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenait devant ses idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. L'encens, Dieu l'avait voulu, mais pour lui, pas pour les idoles. Et on s'étonne que le temple de Jérusalem a été détruit. De tout temps, le diable avait dit, je monterai, je m'assirai. Il a voulu s'élever au-dessus de Dieu. Vous connaissez un petit peu l'histoire du diable. Il a voulu s'élever au-dessus de Dieu. C'est pour ça qu'il a été précipité, qu'il est devenu le diable. Mais il n'a pas changé d'avis, lui aussi. Regardez dans 2 Thessaloniciens. Regardez, c'est pour ça qu'il faut veiller dans les églises. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ces choses. Mais il faut que nous en prenions conscience. L'église, c'est également un combat spirituel. Regardez comment on voit l'église de la fin des temps. Moi, je vous avoue, vous, en tant que pasteur, ça fait réfléchir. Regardez bien. Il est parlé de la fin des temps, de l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Vous n'entendrez pas les journalistes à TF1 ou Antenne 2 vous en parler. C'est dans les églises qu'on doit vous expliquer ce qu'est l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de Dieu. Regardez. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Regardez bien, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. À réfléchir, mes frères et sœurs. Voyez que si Dieu n'a pas changé d'avis, il y en a un autre qui n'a pas changé d'avis. Ce qu'il veut, c'est rentrer dans l'église par tout un tas de choses pseudo-spirituelles et enlever la prière. Et quand dans une église on ne prie pas, on empêche les pécheurs de passer des ténèbres à la lumière. Quand dans une église on ne prie pas, on empêche les rétrogrades de venir. On empêche les chrétiens d'avoir des victoires. Pourquoi tant de chrétiens sont-ils dans la défaite? Vous pourriez me dire pourquoi tant de chrétiens vivent dans le découragement, dans l'abattement? Il y a des chrétiens, on dirait, des païens. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas un reproche, mais quand même. Est-ce que les chrétiens ne devraient pas quand même vivre dans la victoire? La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Pourquoi? Parce que vous avez vu dans les deux textes de l'Ancien Testament que quand il n'y a plus de prière, eh bien l'ennemi, il s'infiltre. Vous êtes d'accord avec moi? Et là, il y a ça un double effet de ne pas prier. Non seulement l'ennemi s'infiltre, et en plus, on empêche les âmes de passer des ténèbres à la lumière. Quand Jésus dit « ma maison sera appelée une maison de prière », il aurait pu dire, vous savez, « ma maison, ce sera une maison de prière, une maison de prédication ». Non? Il aurait pu donner plusieurs noms à sa maison. Je pense qu'il pouvait. Est-ce qu'il pouvait? Bien sûr. Il donne qu'un nom pour que nous ne nous trompions pas, pour que nous sachions qu'est-ce que c'est le plus important dans une église. Et s'il y a bien une chose que nous ne devrions pas négocier, c'est la réunion de prière individuelle, dans sa maison, dans son culte personnel, et la réunion de prière ensemble. La réunion de prière, mais moi je priais... Vous savez, moi ça me brise le cœur, je ne le montre pas, mais moi prier, mais je ne vois pas pourquoi prier. Tu ne vois pas pourquoi prier? Ah, mais je comprends pourquoi Dieu a guéri des aveugles. je ne vois pas pourquoi prier. Moi, quand j'entends ça, je me dis, il y a vraiment un gros problème. Parce que si vous ne voyez pas pourquoi prier, dites au Seigneur, ouvre mes yeux. Parce que moi, je trouve que des sujets de prière, il y en a quelques-uns. Oui ou non? Et si vous dites, moi, je ne vois pas pourquoi prier, vous êtes aveugle. Écoutez, moi, c'est ma responsabilité devant Dieu. Je rendrai compte pour cette prédication au Seigneur. Et je peux vous dire que si vous dites, ah, mais moi, je ne sais pas pourquoi prier, je ne sais rien. Eh bien, Seigneur, ouvre mes yeux. Parce que vous regardez les informations demi-heure et je peux vous dire que des sujets de prière, vous en avez quelques-uns. Et que si vous priez, vous allez voir que ça va venir les sujets de prière. Parce que vous allez prier, mettons, pour l'Algérie, et paf, ça va vous faire penser à la Tunisie. La Tunisie, ça va vous faire penser à tous ces pays en révolution, et etc. Et de fil en aiguille, vous arrivez à une centaine de sujets de prière. Et Dieu, je vous le répète, n'a pas changé d'avis. Il veut que sa maison soit une maison de lumière par la prière. Et nous devrions prendre très au sérieux cette prédication. Comme ce matin, c'était quelque chose de beaucoup plus incisif sur un comportement, mais là, c'est une pensée générale. Ne vous autorisez pas à dire « Ah, mais moi, je prie quand j'ai envie. Je prie un jour sur trois. » Un jour sur trois. Les boiteux qui se sont approchés. C'est ça, les boiteux. Les gens qui prient une fois, disent « Oh, moi, j'en ai marre, je prie pas. Je prie quand j'ai envie. » Vous voyez ? Vous êtes boiteux. La prière, c'est quelque chose de sérieux. Quand est-ce, d'après vous, il faut prier? Quand il a enseigné le Notre Père, il a dit « Donne-nous chaque jour ». Mais est-ce que c'est une corvée de prier? C'est la question qu'il faut poser. La question, il faut se la poser quand même. Si la prière est une corvée, je m'interroge sur le degré de communion que nous avons avec Dieu. Si discuter avec ma femme, c'est une corvée, vous pourriez vous interroger sur la communion que j'ai avec elle. Vous êtes d'accord avec moi? Si je vous dis, vous savez, je parle tous les jours demi-heure avec ma femme. Vous savez? Demi-heure. Hein? Vous pourriez vous dire, il aime beaucoup sa femme. Il est fatigué quand il discute avec sa femme. Moi, je crois que quand on aime quelqu'un, sérieusement, quand on aime quelqu'un, on n'est pas bien avec. La prière, ce n'est pas une corvée. Ce n'est pas un fardeau. La prière, c'est une grâce. Même si c'est un combat. Oui ou non? Se retrouver seul dans sa chambre, dans son salon, et réaliser que le Seigneur, il nous voit, qu'il nous entend, qu'il nous écoute, qu'il est là pour nous. Si ça, c'est une corvée, il faut régler certaines choses et réviser notre perception des choses de Dieu. Mais une chose est certaine, mes frères et sœurs, si nous voulons voir la puissance de Dieu, si nous voulons voir les miracles, si nous voulons voir des conversions, si nous voulons voir des repentants, si nous voulons voir des rétrogrades venir, il est temps que l'Église devienne ou redevienne une maison de prière. Et nous sommes aujourd'hui tombés dans un évangile à la carte. Je viens à l'Église quand ça me plaît. Vous savez, comme le resto, à la carte. Donnez-moi le menu. Non, ça me plaît. Ça me plaît pas. Et il y a des chrétiens, s'ils se mettaient à enlever ou à déchirer une page chaque fois que dans la Bible, il y a un truc qui ne leur plaît pas, il y a des Bibles qui seraient très light, je vous le dis. Très. Je crois, mes frères et sœurs, que si Jésus a répété que sa maison est une maison de prière, nous devrions avoir de la joie et dire « Je sais où Dieu nous bénira. Je sais comment Dieu me bénira. Je sais comment Dieu exaucera mes prières. » Parce que c'est dans la maison de prière que Dieu veut nous bénir. Ce n'est pas écrit dans le psaume 133, alors qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et il y a des gens qui vont à la réunion de prière, comme moi quand je vais chez le dentiste. Ce n'est pas normal ça. Quand on va dans la maison de prière, on devrait se réjouir, oui ou non? Et si ça ne va pas, corrigez-vous. Dites, Seigneur, je me corrige cet après-midi. J'ai compris où le problème était. Et je veux avoir une heure de réunion par semaine. Je vais vous dire quelque chose qui n'est pas bien. Un jour, j'avais proposé à un frère de venir jeûner avec moi. Le matin, à 9h, je lui ai dit, Ça m'avait fait de la peine. J'ai dit, tu ne veux pas venir jeûner, prier avec moi? Ah non, 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 je n'ai pas le temps, j'ai un truc à faire. Le matin. Et à midi, je lui dis, tiens, tu ne veux pas venir manger avec moi au resto? Ah ouais, je veux bien. Voilà. C'est bizarre que comme quand il faut prier, on a toujours un truc à faire. Que c'est dommage quand même. Qui écoutons-nous? Qui écoutons-nous? Est-ce qu'on écoute le Saint-Esprit? Ou est-ce qu'on écoute l'ennemi? Quand l'ennemi a dit à Adam et Ève, mais Dieu a-t-il réellement dit? Mais qu'est-ce que tu vas prier? Tu ne sais pas que Dieu est tout puissant. Mais il sait ce que tu as besoin avant même que tu lui demandes. Parce que le diable, il connaît certains versets, je vous le dis. Tu n'as même pas besoin de prier. Le Seigneur, il te connaît. Il sait ce que tu as besoin. Tu ne sais pas qu'il est tout puissant. Vous voyez comme tout d'un coup, Dieu, le diable prend les intérêts du Seigneur, la puissance de Dieu à l'intérêt. Écoutez, mes frères et sœurs, voulons-nous voir la gloire de Dieu? Il y a quelqu'un ici qui veut voir la gloire de Dieu? Il y a quelqu'un qui dit, mais Seigneur, c'est pour moi cet après-midi. Je suis capable de faire... Vous savez, moi je l'ai vu ça. Et les gens me le disent. C'est vrai que ce soir on vous dirait, tiens, je vous invite au restaurant, on va manger une bonne escalope, une bonne côte de bœuf, là, bien grillée. Hein? À 7h, je vous donne rendez-vous. Qui c'est qui vient? Hein? Allez, je vous paye là. On va à tel restaurant là. À Toulouse, il y a des spécialistes en viande grillée. Il n'y en a pas qui trouveraient du temps. Mais si on disait ce soir à 7h, on fait une réunion de prière. C'est pas un reproche que je suis en train de faire. Mais c'est vous expliquer que notre cœur, il a besoin de retrouver cette vision. Je les réjouirai dans ma maison de prière. Ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus a guéri ces aveugles et ces boiteux. Et si vous êtes aveugle, si vous êtes boiteux, le Seigneur, il veut vous guérir. Est-ce qu'il peut vous guérir cet après-midi? Ben oui. Le Seigneur, il n'a pas dit à ces aveugles, parce que les aveugles et les boiteux, on en a parlé mardi, mais ils n'avaient rien à faire dans le temple. C'est pour ça que les... On revient à Matthieu 21. Regardez quand même. C'est là qu'on voit, malgré la sévérité de Dieu, on voit la miséricorde de Dieu. Et un chrétien, il accepte les deux. C'est Paul qui a dit, considère la bonté et la sévérité de Dieu. Si vous lisez Lévitique 21, vous verrez que les aveugles et les boiteux étaient interdits dans la maison du Seigneur. Vous le croyez ça? Est-ce que c'est écrit? Oui, c'est écrit. Voilà, c'était comme ça. Donc, au chapitre 21, verset 14, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, il les guérit. C'est pour ça qu'au verset 15, il est dit que les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés. Parce qu'en vérité, ils auraient dû être rejetés. Mais cet après-midi, si quelqu'un est aveugle spirituellement, si quelqu'un est boiteux spirituellement, qu'est-ce que Jésus veut faire? Il veut vous guérir. Alléluia. Ne vous sentez pas écrasé, sentez-vous interpellé. Même si cette prédication vous a un peu secoué, eh bien, mais tenez en compte et dites, mais Seigneur, tu m'as parlé. Parce que des fois, on dit, Seigneur, parle-moi. Vous dites ces fois, des fois, Seigneur, parle-moi. Montre-moi ce qui ne va pas dans ma vie. Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi je boite toujours? Pourquoi je suis toujours un aveugle? Eh bien, parce que la prière, c'est du non négociable. Parce que ça amène la bénédiction. Dieu a créé l'Église de telle sorte qu'elle est bénie lorsque l'Église est une maison de prière. Toutes sortes de prières. Quand quelqu'un dit pardon pour mes péchés, c'est une maison de prière. Quand quelqu'un dit merci pour le pardon de mes péchés, c'est une prière. Mais mes frères et sœurs, il faut que dans l'Église du Seigneur, il y ait des réunions de prière. Si l'Église ne prie pas, c'est l'ennemi qui prend de plus en plus de place. C'est pour ça qu'on voit des églises où c'est en train de basculer, où on a l'impression que le monde est entré dans l'Église. On a mondanisé l'Église. On a tellement voulu évangéliser le monde en mondanisant l'Église. Vous me suivez? Qu'on a fait l'inverse. L'Église, elle évangélise lorsque les croyants prient. Lorsque les croyants témoignent, ça suffit. Il n'y a pas besoin de chercher des méthodes. La méthode de Dieu, c'est ma maison et sera une maison de prière. Et si vous ne pouvez pas venir le mardi soir, eh bien chez vous, pendant l'heure de la réunion de 7h30 à 8h30, est-ce que ça peut se faire? C'est-à-dire, tiens, une heure. J'espère que chaque jour, vous avez un moment d'intercession. C'est là qu'on fait des expériences. Vous croyez que Dieu peut vous faire des expériences chez vous? Hein? Qu'y a-t-il dans votre cœur? Est-ce que cet après-midi, vous êtes conscients tous que lorsque l'Église redeviendra une maison de prière, l'ennemi y fuira? Et nous verrons la gloire de Dieu. Parce que quand Jésus dit « si tu crois, tu verras la gloire de Dieu », si tu crois, ça veut dire si tu fais aussi ce que le Seigneur te demande de faire. On va fermer les yeux quelques instants. Et nous voulons voir la gloire de Dieu dans sa maison. Hein. On peut dire au Seigneur « enseigne-moi à prier ». Je ne sais pas où vous en êtes, moi je ne vous connais pas tous. Mais si Dieu vous a parlé cet après-midi, vous devriez pouvoir dire « cette heure de prière, je ne la négocierai pas ». Ce moment, ce culte personnel, puisque c'est moi aujourd'hui la maison, c'est mon cœur qui est le temple du Saint-Esprit, je ne le négocierai pas. Et vous verrez tout à nouveau, vous verrez si Dieu n'est pas puissant, si Dieu n'agit pas, si Dieu n'exauce pas. Mes frères, mes sœurs, Dieu est tout puissant. Et il veut vous bénir. Et il y a un autre qui le sait aussi, que si vous ne priez pas, votre cœur se remplira des choses du monde ou même des choses diaboliques, comme on le voit dans le temple, où il y avait même jusqu'à des prostituées qui étaient dans le temple. Notre Père, notre Dieu, que dans cette ville de Toulouse, les églises soient des maisons de prière. Que nos maisons soient des maisons de prière. Seigneur, nous avons vu au travers de ces quelques textes de l'Ancien Testament ce qui s'est passé lorsque ton peuple n'a plus prié. Seigneur, nous te demandons pardon pour tout ce qui empêche les croyants de prier. Nous te prions de nous interpeller, de nous montrer, de nous éclairer. Seigneur, nous ne voulons pas d'autre source de lumière et de chaleur que toi. C'est toi qui nous éclaire, c'est toi notre lumière, c'est toi notre vie, c'est toi notre bonheur. Et nous te prions pour que ce lieu, cette assemblée dans laquelle tu nous as placés, soit une maison de prière, que ces réunions de prière soient des lieux où tu vas nous réjouir, où tu vas délivrer. Et s'il y a dans le cœur de quelqu'un cet après-midi des ténèbres, s'il y a dans le cœur de quelqu'un des idoles, s'il y a une espèce de prostitution spirituelle, s'il y a de l'apostasie, que ses frères et sœurs soient délivrés maintenant par la puissance du Saint-Esprit, que toutes ces idoles soient chassées, comme le sacrificateur Ilkija a sorti du temple toutes ces idoles. Seigneur, que nous puissions vraiment sortir de nos cœurs tout ce qui prend la place, tout ce qui t'empêche de nous toucher, tout ce qui t'empêche de nous bénir. Oui, Seigneur, tu connais mes frères et sœurs, ceux qui sont venus cet après-midi. Tu sais, Seigneur, tu savais qu'ils viendraient cet après-midi dans ce lieu. Et tu sais ceux qui ont besoin de faire du ménage dans leur cœur, qui ont besoin de chasser tout ce qui provoque les ténèbres. Oui, tu es un Dieu de lumière, tu es un Dieu de délivrance, tu es un Dieu de victoire. Et cet après-midi, ensemble, nous te demandons d'interpeller tous les chrétiens de Toulouse, afin que les assemblées, le corps de Christ, redeviennent vraiment une maison de prière pour toutes les nations. Seigneur, que toutes les chrétiens, toutes les nationalités chrétiennes de Toulouse puissent se retrouver ensemble pour que tu puisses nous délivrer et nous guérir. Oui, car tu l'as promis que tu guérirais là où ta maison serait une maison de prière. Merci Seigneur Jésus.